BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos.
L'avenir, le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. La blockchain en contient une fraction de l'avenir. On va donc en parler, ainsi que des crypto-monnaies bien sûr, avec nos trois experts, des pros des cryptos, comme chaque vendredi. Ils viennent de nous rejoindre. Claire Balva, bonjour Claire.
Bonjour.
Co-fondatrice de Blockchain Partner, directrice blockchain crypto pour KPMG France. Owen Simonin, à distance avec nous. Bonjour Owen.
Bonjour.
À la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube, bien sûr, Asher, ainsi que Vincent Gann avec nous aussi. Vincent, toujours avec nous.
Bonjour Guillaume.
Toujours en plateau, interactif, trading. J'espère que vous êtes prêts et vous pouvez retrouver, bien sûr, les meilleurs moments, les saillies les plus fortes de ce rendez-vous sur notre nouveau fil Twitter BFM Crypto. Vincent, un record du Bitcoin le 10 novembre dernier à 69 000 $ et depuis le vent venu des steppes, la bise s'est mise à souffler, le refroidissement des cours se poursuit, le Bitcoin vaut actuellement moins de 60 000 $. Pour la suite, quels sont les scénarios, les hypothèses techniques que vous retenez pour l'évolution à venir du Bitcoin?
Oui, alors il y a plusieurs choses. En fait, le cours du Bitcoin n'a pas vraiment fait de nouveau record historique. Enfin, si, il a fait 69 000 $. Mais rappelez-vous les records du printemps dernier, les 65 000 $ qui avaient déclenché 50% de baisse. Le marché les a rejoints mi-octobre et en fait, depuis, il est dans l'incapacité de les dépasser. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, comme je l'expliquais dans l'émission il y a deux semaines, le cours du Bitcoin n'a pas fait l'erreur qu'ont peut-être fait certains indices boursiers de partir en mode vertical. En fait, qu'est-ce qu'il propose le cours du Bitcoin depuis un mois? C'est un trading range, une phase latérale. Alors, accumulation, distribution, forcément, la réponse n'est pas évidente, mais regardons derrière l'action des prix. Je me suis tourné vers les données d'engagement des institutionnels, de volume, de participation. Il n'y a pas de désengagement des institutionnels. Donc le marché reste plat tout en haut, contact de son record historique. Et pour le moment, les données de marché, pour moi, suggèrent que c'est une phase d'accumulation avant, plus tard, un dépassement dans des conditions techniques saines. Et puis maintenant, on pourrait aussi envisager que, avec le point de départ d'une correction sur le marché action, pourquoi pas l'aspect refuge du Bitcoin. Mais bon, là aussi, le statut n'est pas avéré et ça change tous les mois.
C'est vrai qu'on aime bien parler de... On entend en tout cas souvent parler de Bitcoin comme de l'or numérique. Et vous voulez ajouter un mot là-dessus, alors, Vincent?
Oui, non, c'est... Et puis juste pour terminer sur l'aspect technique, pour les auditeurs, retenez 53 000 $. C'est le niveau à ne jamais rompre pour ne pas donner un signal de chute à 20 000 $. C'est le garant du marché haussier, 53 000 $.
Et on verra si le Bitcoin, si les marchés actions venaient à refluer, si le Bitcoin joue le rôle de valeur refuge depuis le début du mois, en tout cas, les vrais actifs refuges, en tout cas, ceux établis depuis des siècles, l'or et l'argent métal, eh bien, les cours de l'or et de l'argent métal, depuis le début du mois, se sont envolés. Ils ont rebondi très rapidement. Même constat pour le dollar, un autre actif refuge. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter de près ou de loin la tendance aussi sur le Bitcoin?
Alors, pour le dollar américain, non. On peut pas raisonner de manière corrélation inverse. Le dollar monte, le BTC USD va chuter. Ça fonctionne pas comme ça. Maintenant, le statut du cours du Bitcoin, lorsqu'on étudie juste les chiffres des coefficients de corrélation linéaire, c'est plutôt corrélé au risque, ça avance avec le marché action. Mais ce statut est en train de changer. Depuis un mois, par exemple, les indices s'envolent, pas le cours du Bitcoin. Et aujourd'hui, sur la séance d'aujourd'hui, on peut observer éventuellement un rôle de valeur refuge. Rôle de valeur refuge qu'il a peut-être chippé à l'or, puisque l'or, depuis un an, ne fait plus rien. Même si, depuis 2-3 semaines, il y a un retour des capitaux, c'est ce que suggèrent les données de participation. Alors, valeur refuge, actif risqué, pour certains, hedge contre l'inflation. Dès lors que, sur un marché, vous savez, il y a des contrats à terme qui sont disponibles, contrats futurs, options que les institutionnels peuvent venir, tous ces statuts-là sont possibles. Mais ouais, je ne serais pas surpris que, dans la phase qui nous attend, que le BTC puisse avoir un aspect refuge.
Ce sera intéressant à surveiller. En tout cas, et pendant ce temps, l'écosystème tisse toujours sa toile à coup de publicité désormais dans la presse de référence. Binance s'est payé une pub retentissante dans le Financial Times, le journal de référence de la finance mondiale. Normalement, les publicités sont faites pour attirer le plus de clients possible. Bella, le grand titre de cette pub, c'était « Crypto is evil ». La crypto, c'est le mal absolu. Ah, c'est pas très positif comme publicité. Owen, pourquoi cette tactique? Pourquoi Binance choisit-il de communiquer ainsi?
Eh bien, c'est comme quand on claque des mains très très fort pour attirer l'attention et qu'ensuite on dit quelque chose d'intéressant. Binance rappelle tout de suite après que dans les crypto-monnaies, il ne faut pas se fier aux gros titres. Comme on le dit très souvent, Dior, rien à voir avec le géant du parfum, pour le coup c'est D-Y-O-R, do your own research, c'est-à-dire faites vos propres recherches et allez plus loin, surtout dans le monde de la crypto-monnaie, que de s'arrêter aux gros titres et de ce qui est dit. Et profite de cet article également pour rappeler les droits fondamentaux des membres de la communauté crypto, notamment un droit, et c'est le premier de cette liste, qui rappelle que tout le monde devrait avoir le droit d'accéder, s'il le souhaite, à des outils financiers comme les crypto-monnaies, permettant un peu plus d'indépendance économique et financière.
On découvre, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business, à la radio, mais aussi à la télévision, cette publicité « Crypto is evil ». C'est écrit en lettres d'or, d'ailleurs. C'est très intéressant. Les médias traditionnels, Claire, utilisent souvent des arguments très négatifs, péjoratifs, voire méprisants vis-à-vis des crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez quelques hirondelles quand même commencer à voler les signes que cette communication autour des cryptos peut ou va évoluer plus positivement ?
Oui. Alors, on n'a pas du tout renversé encore les préjugés qu'on constate dans les médias traditionnels. Mais effectivement, il y a quelques années, on était obligé, quand on voulait un article constructif sur les cryptos, d'aller uniquement sur des médias spécialisés. Donc en France, par exemple, on a des médias comme Cryptost ou comme le journal du Coin. Aujourd'hui, on voit dans certains médias traditionnels des journalistes qui se sont spécialisés sur ces questions. Souvent, on voit des jeunes journalistes qui ont envie de traiter ces sujets avec un angle un peu différent, qui ne soit pas uniquement basé sur des préjugés et des poncifs qu'on voit habituellement. Donc c'est assez intéressant, on voit les choses bouger. Je pense par exemple cette semaine à un reportage qui est sorti sur Arte, qui s'appelle Le Mystère Satoshi, où il y a plusieurs experts de l'écosystème qui ont témoigné. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce type de contre-discours par rapport à tous les discours qui souvent ne sont basés sur rien, à part les préjugés des gens qui les tiennent.
C'est quelque chose que vous regardez, la façon dont les médias en général parlent de cet écosystème. C'est vrai que vous suivez très près, avec beaucoup d'expertise chez KPMG. Vous êtes sensible à ça ? Ça vous donne la pêche quand vous voyez les choses évoluer ? Ça vous mine le moral quand vous constatez que ce n'est pas complètement encore le cas ?
C'est toujours frustrant, effectivement, quand on voit des articles qui racontent des choses qui sont factuellement fausses, avec des préjugés qui ont déjà été débunkés depuis. Donc, et oui, ça nous motive quand on voit des journalistes qui se deviennent très compétents et qui traitent ces sujets avec nuance, avec modération, de manière constructive. Donc c'est forcément quelque chose qu'on suit parce que ça a un impact aussi sur nos clients, sur les entreprises, sur la manière dont les institutionnels voient aussi la crypto.
Oui, ce qui est dur, c'est que c'est facile de détruire la réputation de quelque chose, d'un actif en quelques mots, avec un gros titre comme ça, derrière, pour expliquer, quand il s'agit en plus d'actifs parfois complexes pour expliquer, il faut plusieurs phrases, il faut plus de temps.
Bien sûr.
Et dans cette bataille du bruit, dans cette bataille des réseaux sociaux, souvent il est beaucoup plus facile de détruire que de construire un discours.
Bien sûr, complètement. Et moi, je remarque que c'est un peu la même chose, finalement, que ce qu'on a vu avec Internet il y a 20 ans. Où il y a 20 ans, Internet, on voyait des gros titres qui disaient qu'on pouvait apprendre à faire une bombe sur Internet, que c'était très dangereux, que c'était le grand réseau pédophile. Et finalement, au fur et à mesure des années, on a eu un discours beaucoup plus nuancé, beaucoup plus constructif. Et on commence à voir ce shift aussi sur les cryptos.
Pendant ce temps, un nouveau partenariat qui a fait parler cette semaine, Deloitte, l'un des Big Four, avec KPMG, avec vous aussi Claire, bien sûr, dans cet univers de l'audit. Deloitte a annoncé un partenariat avec Avalabs, l'équipe derrière la blockchain Avalanche. Que vient faire Owen, que vient faire Deloitte sur ce terrain de la blockchain et pourquoi mise-t-il sur cette blockchain Avalanche ? En quoi consiste d'ailleurs ce partenariat, Owen, qui a été annoncé cette semaine ?
C'est un usage bien précis, pour pas dire, je vais me référer à une petite. L'objectif de Avalanche dans cette collaboration avec le cabinet Deloitte, c'est vraiment d'aider les États à démontrer leur éligibilité pour recevoir des financements en cas justement d'urgence. Limiter du coup les fraudes et les abus qu'il peut y avoir, surtout en cas de désastre quand on doit agir assez rapidement. Le fait que, alors évidemment c'est des usages très particuliers, et l'objectif de Deloitte c'est également d'avancer un petit peu plus, comme le font la plupart de ces géants, à travers l'écosystème et l'univers de blockchain. La particularité c'est du temps, les blockchains les plus connues comme Ethereum, hein, l'écosystème Ethereum, qui est la plus grosse blockchain d'infrastructure, on va voir, et on en parlait, qu'il y a plein d'usages qui peuvent être faits sur différentes blockchains d'infrastructure. Avalanche fait partie de ces géants, et c'est très très drôle qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Avalanche a tapé ton pâté. Qu'il n'avait jamais atteinte. Depuis quelques jours, il se valorise, principalement suite à cette annonce de ce géant. Et Avalanche a touché les $110 aujourd'hui pour la première fois. Pour rappel, il était à moins de $5 au 1er janvier cette année.
Ben voilà, cette blockchain Avalanche qui tente de répondre, enfin sur laquelle Deloitte mise en tout cas pour tenter de répondre, d'apporter, de trouver des solutions en tout cas à ses propres besoins. Et cette annonce cette semaine d'un partenariat, Owen, la liaison n'était pas complètement parfaite. On va essayer de rétablir les choses bien évidemment, pendant que Claire elle aussi va sortir du bois sur cette question d'une auditrice, parce qu'on essaie aussi de répondre aux questions pratiques hein, de tous ceux qui nous suivent. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Cette question d'une auditrice qui s'appelle Sylvie et qui nous parle des ETF en crypto-monnaie. Elle s'intéresse aux cryptos, mais elle voudrait y investir plutôt à travers les ETF. Quel est l'intérêt et l'inconvénient des ETF, nous demande Sylvie, pour investir en crypto, et quels sont les ETF qui vous semblent les plus pertinents, Claire?
Alors, l'intérêt principal d'un ETF, c'est que c'est un outil qui est plus familier pour la plupart des gens, effectivement, qui vont investir déjà dans des produits d'investissement divers et variés, beaucoup plus traditionnels que les cryptos. Et donc, l'ETF va être disponible sur une plateforme qui est probablement plus classique que les plateformes d'échange qu'on voit aujourd'hui sur les cryptos. Donc, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des investissements, l'ETF va être peut-être plus accessible, plus simple. Il n'y aura pas besoin de créer un nouveau compte sur une plateforme pour aller acheter du Bitcoin sur un PSAN français, par exemple, ou sur une plateforme étrangère. Il peut y avoir aussi un certain nombre d'avantages fiscaux, mais là, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça dépend de ce que vous achetez, ça dépend du pays où vous êtes basé, ça dépend de si vous êtes un investisseur particulier ou professionnel, donc c'est très variable. J'ai pas envie de conseiller un ETF plutôt qu'un autre, parce qu'en fait, si vous êtes une entreprise, l'ETF c'est intéressant, ça vous permet de détenir indirectement de la crypto sans détenir juridiquement de la crypto. Par contre, si vous êtes un particulier, ça a quand même un inconvénient, je trouve, philosophique, c'est que vous ne détenez pas vraiment votre crypto-monnaie. Vous allez détenir un ETF qui peut être basé sur vraiment des bitcoins d'un point de vue physique, ou qui peut être un ETF synthétique, mais vous n'allez pas détenir votre crypto. Et donc, les ETF vont peut-être permettre de familiariser un certain nombre d'individus pour ensuite les entraîner vers les nouveaux acteurs crypto. Mais moi, mon conseil, si vous vous intéressez à Bitcoin et aux crypto-monnaies en général, ça va être plutôt d'investir sur une plateforme spécialisée et de détenir même votre crypto vous-même sur un ledger, par exemple,
un wallet,
pour ne pas dépendre d'un tiers. Et c'est ça qui permet aussi de se rendre compte du potentiel de ces actifs.
D'accord. Les ETF, il y a un ETF français d'ailleurs, je crois, c'est Mélanion.
Mélanion, oui.
Exactement.
Oui, oui, qui investit dans des parts d'entreprises. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on investit dans des parts d'entreprises qui sont dans le milieu crypto, indirectement, c'est comme si on investissait dans la crypto, même si on est un peu moins exposé aux hausses comme aux baisses.
Bon, ces ETF donc qui permettent de répliquer la performance sans la sécurité, et on sait que voilà, l'une des promesses dans l'univers des crypto-monnaies liées aux différentes blockchains, chacune aura sa propre blockchain, c'est la sécurité, ça peut parfois souvent être la décentralisation. Bref, il n'y a pas que la performance, on est d'accord, et c'est pour ça qu'on parle des crypto-actifs et aussi des crypto-monnaies. Il y a beaucoup d'autres propriétés qui vont au-delà de celles d'un simple actif. Tiens, justement, l'évolution du Bitcoin, elle va peut-être dépendre de cette décision du département de la justice américaine. Avis aux amateurs, si vous cherchez des Bitcoins au coin de la rue, le département de la justice américaine va vendre 65 millions de dollars de Bitcoin. Les Bitcoins vendus proviennent de la saisie des fonds volés lors de l'arnaque BitConnect. Qu'est-ce que BitConnect d'ailleurs, Owen ?
Alors, BitConnect est l'une des plus grosses pyramides de Ponzi qui a été mise en place et qui a été du coup propagée par l'écosystème du monde des crypto-monnaies. En fait, BitConnect, c'était un site internet qui proposait aux gens d'investir, leur garantissait approximativement 1% de rendement par jour, et oui, sinon c'est pas drôle, en déposant simplement des fonds. La particularité, c'est que comme c'est une pyramide de Ponzi qui a très bien fonctionné, énormément de gens ont investi dedans, eh bien elle a duré dans le temps. Et comme elle a duré dans le temps, la plateforme recevait de plus en plus d'argent. Elle était donc capable non seulement de se prendre une grosse commission sur ce montant, hein, donc de voler de l'argent, et de continuer à donner 1% de rendement par jour aux investisseurs qui, eux, étaient déjà présents. Et comme il y a eu de plus en plus d'utilisateurs, ça a duré des mois et des mois, et c'est aujourd'hui, à côté d'un autre nom qui était OneCoin, hein, l'une des autres plus grosses pyramides de Ponzi qu'il y a eu dans cet écosystème, la plus grosse arnaque qu'il y a eu dans l'écosystème des crypto-monnaies.
Et donc une vente de Bitcoin à venir pour 65 millions de dollars, vous ne rêvez pas, c'est une vente massive, elle va forcément d'ailleurs avoir un impact sur le marché. Est-ce que cette initiative du département de la justice américain vous semble en l'occurrence juste, claire, vis-à-vis des personnes qui détiennent des Bitcoins, compte tenu que cette vente va sans doute impacter le cours du Bitcoin?
Alors, je suis pas sûr qu'elle impacte tant que ça, même si c'est vrai que c'est une vente importante, hein, 65 millions. Mais pour rappel, le volume quotidien sur Bitcoin, ça se mesure plutôt en dizaines de milliards. Donc 65 millions, voilà, c'est pas une vente de 65 millions qui va faire chuter le cours du Bitcoin de 30%, pas du tout. Et même si on ressent finalement une micro-correction au moment où 65 millions sont vendus, ça ne remet pas en cause du tout sur le long terme la tendance haussière qu'on voit sur Bitcoin. Donc pour moi, c'est pas spécialement injuste. Alors je sais pas s'ils vont essayer de vendre 65 millions d'un coup, s'ils vont le faire en plusieurs fois. Mais finalement, je pense pas que cette vente aura un impact, à part sur vraiment peut-être un très court terme, et encore.
Bon, l'analyse technique que vous êtes, Vincent, là-dessus, sur l'impact d'une possible vente de 65 millions de bitcoins, comment est-ce que vous apprenez la nouvelle? Quel impact est-ce que vous attendez éventuel ou pas d'impact, comme le disait Claire à l'instant?
Oui, non, je suis assez d'accord avec Claire. Et puis, pour compléter ce que vient de dire Claire, le département de la justice peut aussi s'entendre avec des acheteurs institutionnels et faire ça, en fait, directement de gré à gré, donc sans impacter les carnets d'ordre au comptant. Donc, non, ça peut se faire de manière très professionnelle. Je suis persuadé qu'il y aura des maisons de gestion pour acquérir ces BTC, donc ça devrait être indolore.
Bon, on reviendra dans un instant, Owen, parce que la liaison n'était pas très bonne. On reviendra dans un instant sur la blockchain Avalanche et vous nous répéterez un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. La liaison n'était pas top. Dans l'actu cette semaine, on a aussi vu que le Robert, dans l'univers lexical, le Robert crée un nouveau pronom. Il, elle et yel, désormais aussi pour les personnes qui ne sont ni il ni elle. Et bien, dans notre dictionnaire à nous, le dictionnaire des cryptos, par lequel vous nous expliquez régulièrement le jargon crypto, vous nous faites découvrir ce terme qui monte lui aussi en puissance. Le Web 3. Ce terme est souvent lié aux crypto, à la blockchain, l'intelligence artificielle. Le Web 3, ça signifie qu'avant, Claire, il y avait le Web 1, le Web 2. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et de quelle évolution il s'agit?
Oui, alors c'est vrai que c'est des termes un peu galvaudés, mais ça désigne effectivement plusieurs phases d'Internet. Ce qu'on appelle le Web 1, c'est le web assez basique, c'est-à-dire que c'est les premiers sites Internet sur lesquels on trouvait de l'information. C'est, vous savez, tous les blogs qu'on faisait tous à une certaine époque. Et donc, c'est vraiment un web vitrine où on pouvait écrire du texte, peut-être mettre des images. Mais c'était un web très simple. Le Web 2, c'est le web des GAFA, c'est le web de la recentralisation. Où des entreprises ont fait une expérience utilisateur très sympa, très belle, et ont attiré de nombreux utilisateurs. On a vu les réseaux sociaux émerger avec du contenu qui circule très librement. Et donc, d'ailleurs, cette difficulté aussi pour les créateurs de gagner de l'argent sur leur contenu. Vous savez, le Web 2, ça a été très difficile à vivre parfois pour les médias et pour le monde de la culture. Et ce qu'on appelle le Web 3, c'est le web de la propriété numérique. Et c'est tout ce qu'on voit notamment avec la tokenisation, avec les NFT aujourd'hui, qui est devenu carrément un buzzword, où certains peuvent revendiquer la création d'une œuvre numérique, où on arrive à créer de la rareté numérique, où on arrive à avoir une monnaie sur Internet. Et donc le Web 3, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il a un peu les mêmes valeurs que le Web 1. On retrouve des similarités entre le Web 1 qui se voulait décentralisé et le Web 3 qui remet en tout cas partiellement en cause les centralisateurs qui s'étaient formés pendant le Web 2. Et typiquement la tentative de Facebook avec ce rebranding et ses nouvelles activités autour du métaverse, c'est aussi une tentative pour être un nouvel acteur du Web 3.
Oui, c'est Raphaël Bloch qui nous suit régulièrement, un des spécialistes dans l'univers des journalistes qui suivent les cryptos, qui il y a quelques jours tweetait qu'il y a 10 ans, on achetait des choses sur le web. Aujourd'hui, on achète des choses numériques. Voilà.
Oui.
Il y a 10 ans, on achetait des choses sur Internet. Aujourd'hui, on achète des choses numériques, dont l'ADN est lui-même numérique. Le Web 3, Owen, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel rapport avec la blockchain? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui?
Alors, pour revenir sur ce que disait Claire, c'est vrai que le Web 1, c'était un petit peu comme une vitrine, du coup. Les gens venaient consulter de l'information. Les gens venaient s'informer, on venait lire ce qu'il y avait sur Internet. Le Web 2, c'était plus simple. Il y a des grosses entreprises qui ont simplifié l'expérience, simplifié la production de contenu et l'émission de contenu. Et donc, tout le monde a pu devenir un petit peu un rédacteur d'Internet. Tout le monde peut partager de l'information et finalement devenir le créateur de ce contenu. Le problème, c'est comme tout le monde peut publier, il y a eu une émulsion de contenu un peu partout, mais également de données utilisateurs. Et donc, ça devient très compliqué dans un monde où n'importe qui peut consulter et n'importe qui peut proposer du contenu, de savoir qui revient à qui est propriétaire et qui est l'auteur finalement de cette information, tout en maîtrisant l'information qui est partagée. Et du coup, on en arrive à le Web 3, le Web 3, hein, du coup, cette fameuse étape où non seulement on permet de maîtriser un petit peu mieux et de réaliser un échange financier également, principalement grâce à la décentralisation et la blockchain. Ça permet de réaliser des transactions, mais également de maîtriser l'information que va proposer chaque rédacteur et chaque utilisateur. Dans le monde de la crypto-monnaie, c'est un peu particulier, puisque beaucoup ont découvert le Web3 à travers un plugin qu'on utilise sur différents sites internet. Je donne un exemple très simple. Quand on va explorer la blockchain Ethereum, l'un des sites les plus connus, c'est Etherscan. Quand on tombe sur un contrat blockchain, on peut connecter son propre portefeuille et interagir avec ce contrat. Et c'est drôle parce que le site internet lui-même ne peut pas interdire un utilisateur de communiquer avec ce contrat. Toute personne étant sur le réseau, ayant un compte sur cette blockchain, se voit avoir les mêmes droits que tous les autres, que le site ait envie ou non de lui donner accès. Ce qui donne une certaine liberté, malgré le fait que l'utilisateur est bien en train de consulter un site internet.
Oui, c'est Twitter qui a annoncé vouloir creuser cette question du Web3, Claire, décentraliser, c'est la question de la décentralisation en l'occurrence des réseaux sociaux qui se jouent.
Exactement. Alors, Twitter a d'ailleurs lancé un certain nombre d'initiatives. Par exemple, les dons en Bitcoin, en crypto-monnaie, sont maintenant disponibles sur Twitter. Donc, clairement, l'entreprise s'intéresse à ce domaine. Ouais.
Bon, et on revient sur Deloitte. Deloitte, c'est l'autre annonce de la semaine. Owen, maintenant que la liaison est pleinement rétablie, Deloitte qui a annoncé en effet ce partenariat avec Avalapse et la blockchain Avalanche. En quoi est-ce que cette blockchain peut apporter des solutions à un groupe d'audit comme Deloitte, l'un des Big Four, avec KPMG que Claire représente sur ce plateau aujourd'hui?
Alors, c'est un usage assez particulier. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place une plateforme. Je vais vous donner le nom exact, c'est Close As You Go. Et cette plateforme va permettre, grâce à la technologie, notamment la technologie blockchain d'Avalab, vérifier l'éligibilité d'une situation, notamment en cas de catastrophe, afin de savoir si le pays en question et la catastrophe en question est bel et bien apte à demander du coup un financement pour obtenir de l'aide. Donc c'est un usage qui est quand même très particulier et qui est vraiment, enfin, les petits détails de cet usage sont très clairement à définir et je serais pas capable de rentrer dans le détail exact de tout ce qui va être mis derrière. En attendant, il y a un truc qui est intéressant, c'est de voir que un cabinet aussi gros du coup que Deloitte se tourne vers l'une des grosses blockchains d'infrastructure du moment. Avalanche est non seulement l'un des géants qui propose une infrastructure blockchain, donc on en parlait. Il y a des projets blockchain qui utilisent des moteurs afin d'émettre leur solution, leur utilité. Avalanche propose un moteur blockchain. Tout le monde peut créer sa crypto-monnaie sur l'écosystème Avalanche. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, Avalanche, le token AVAX, a touché aujourd'hui son ATH. C'est-à-dire qu'il s'agit de la plus haute valeur que le jeton n'a jamais touchée. $110 aujourd'hui, alors qu'il était à moins de $5 au 1er janvier. Et Avalanche a énormément et très apprécié du coup dans la communauté et a beaucoup de fans parce que c'est une blockchain qui dès sa création a été basée sur une base de cross-compatibilité. C'est-à-dire que le jour même où Avalanche a été pensé et a été conçu, ils avaient en fait dans le moteur même et dans l'essence même du projet la volonté d'être compatible avec la blockchain Ethereum et donc la volonté d'envoyer un message fort en disant cette blockchain sera compatible et communiquera avec les autres. Il faut arrêter de s'enfermer dans un monde où chaque blockchain a sa propre façon de fonctionner. L'avenir, c'est la blockchain qui communique et ce sont différentes technologies qui échangent entre elles.
L'explication de texte hebdomadaire dans cet univers parfois obscur à ceux qui ne le connaissent pas encore, l'univers des crypto-monnaies et de la blockchain. L'avenir décrypté dans les pros des cryptos grâce à nos experts Claire Balva, KPMG, qui nous accompagne chaque vendredi. Merci beaucoup Claire. Owen Simonin et sa chaîne YouTube Asher, Just Mining, bien sûr aussi sa société, puis Vincent Gagne qui nous accompagnait TradingView France, merci à tous les trois. Bonne fin de semaine, bon week-end. Le CAC 40 auquel on va se reconnecter tout de suite dans un instant, même juste après la pause, le club jusqu'à la clôture des marchés, eh bien le CAC 40 est en petite baisse de 0,6% actuellement. On vous explique pourquoi dans moins de 2 minutes. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.